en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Jean Tirole est membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis le 27 juin 2011 dans la section économie politique, statistiques et finances, où il a succédé à Maurice Allais. Jean Tirole est directeur scientifique de l'Institut économique industriel à Toulouse. Vous allez l'entendre maintenant s'exprimer sur rationalité, psychologie et économie. Tel était en effet le titre qu'il avait donné à sa communication lors de la séance académique du lundi 21 novembre 2011. Il tente de rapprocher l'économie comportementale des développements de l'économie en général. Entrez grâce à Canal Académie dans la salle des séances.
Merci Monsieur le Président et merci pour votre invitation à présenter quelques travaux. Je ne sais pas si je vais éclaircir le mystère, mais je voudrais effectivement rapprocher un peu l'évolution de ce qu'on appelle l'économie comportementale avec les développements de l'économie en général. Pour cela, il faudrait que je fasse quelques rappels d'abord sur la façon dont les économistes appréhendent le comportement humain. Les économistes partent d'individus en général plus que de groupes, même s'ils étudient les groupes. Ces individus sont des ménages, sont des décideurs dans une entreprise, sont des hommes politiques qui agissent au mieux de leurs intérêts, c'est-à-dire étant donné l'information qui est peut-être limitée dont ils disposent, et étant donné leurs objectifs, ils se comportent rationnellement. Alors l'économie moderne est basée sur deux thèmes unificateurs, tout d'abord la théorie des jeux. La théorie des jeux, en fait, est une vieille théorie qui a été développée initialement par des mathématiciens, à savoir Émile Borel, le fameux mathématicien français, ou John von Neumann, qui est le touche-à-tout de génie américain. Et plus récemment, la théorie des jeux a été développée par les économistes et par les sciences sociales en général. Cette théorie des jeux décrit des choix de stratégie par des acteurs qui sont en situation d'interdépendance et aux intérêts divergents. Ce ne sont pas des équipes où tout le monde veut forcément réaliser le même objectif, mais ce sont des gens qui ont des intérêts divergents, par exemple un oligopole qui se bat sur un marché ou des hommes politiques qui sont en concurrence pour une élection, etc., etc. Pour vous présenter par exemple un jeu élémentaire qui a été beaucoup utilisé, le dilemme du prisonnier, décrit une situation très simple à deux joueurs. Ces deux joueurs, chacun peuvent de façon simultanée coopérer ou adopter un comportement déviant ou opportuniste. Les deux ont intérêt collectivement à coopérer, mais par contre, individuellement, ils ont intérêt à adopter un comportement déviant. Alors, c'est ce que montre cette matrice, où le premier bénéfice, c'est celui du joueur 1, et le second bénéfice, c'est celui du joueur 2. Par exemple, si le joueur 1 dévie et le joueur 2 coopère, le joueur 1 a 10 et le joueur 2 reçoit moins 10. D'accord ? Donc en gros, vous pouvez regarder la matrice. Si vous déviez, vous augmentez votre utilité de 5, que ce soit des euros ou peu importe. Vous augmentez votre utilité en déviant. C'est un jeu extrêmement simple parce que ce jeu à ce qu'on appelle une stratégie dominante dans le jargon de la théorie des jeux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'anticiper ce que va faire l'adversaire. Quel que soit le jeu de l'adversaire, on a intérêt à dévier, puisqu'on gagne toujours plus en déviant. Donc par exemple, le joueur 1, si l'autre coopère, a 10 au lieu de 5, et si l'autre dévie, a moins 5 au lieu de 10. Donc on a intérêt toujours à dévier. C'est les intérêts personnels. Donc c'est un jeu extrêmement simple, parce qu'en général, en théorie des jeux, je dois prédire ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire dépend de ce que vous pensez que je veux prédire, etc., etc. Donc c'est un jeu beaucoup plus compliqué normalement, alors que ce jeu est extrêmement simple. Donc il y a une stratégie dominante, et normalement, en théorie des jeux, tout le monde devrait dévier dans ce genre d'environnement. En pratique, et on viendra là-dessus, tout le monde ne dévie pas. C'est-à-dire qu'il y a entre 15 et 25% des joueurs qui choisissent la coopération, même si la coopération n'est pas optimale. Alors, ce jeu très simple représente quand même des situations réelles importantes. Par exemple, si vous pensez au cartel de l'OPEP, avant justement qu'il cartélise, on a intérêt, chaque pays a intérêt à augmenter la production de pétrole, mais au déprimant des autres. C'est-à-dire qu'un intérêt individuel va vers plus de production de pétrole, mais les autres souffrent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils essaient de s'entendre pour pas jouer ce jeu-là. Tout oligopole essaie de s'entendre si c'est légal. En général, ça ne l'est pas. C'est aussi ce jeu qui inspire le programme de clémence dans la lutte des cartels. C'est un programme qui existe depuis longtemps aux États-Unis, qui a été introduit en Europe récemment, qui porte déjà ses fruits, qui consiste à dire, en gros, si une entreprise dévoile l'existence d'un cartel auquel elle participe, dans ce cas-là, elle a immunité, et donc ça l'incite à, finalement, dénoncer les autres entreprises, parce qu'autrement, elle pourrait se faire prendre quand même. Et tandis que si elle va à la Commission européenne et qu'elle dit « je fais partie d'un cartel » et qu'elle le prouve, dans ce cas-là, les autres sont punis, mais pas elle. Donc c'est les autorités européennes, d'une certaine manière, créent un dilemme du prisonnier qui a très bien réussi dans la pratique. Un autre exemple d'application, c'est le réchauffement climatique, où chaque pays, évidemment, a intérêt à polluer, mais collectivement, les conséquences en sont désastreuses. Donc ça, ce sont des exemples qui, dans le domaine de l'environnement, s'appellent la tragédie des biens communs, hein, qui est une vieille histoire. Et évidemment, il y a un lien avec Kyoto et Copenhague, qui ont été des échecs importants. Chaque pays, évidemment, a intérêt à ne rien faire. Bon, en faire un petit peu quand même, parce qu'il y a des dommages collatéraux. Et puis on essaie d'amadouer l'opinion publique interne et éviter la pression internationale. Mais en gros, la stratégie optimale pour chaque pays, et c'est la stratégie que malheureusement tout le monde a adoptée, c'est la stratégie D, c'est-à-dire de dévier et de polluer plus que nécessaire. Donc ce qu'il faudrait, c'est atteindre un accord contraignant sur C, c'est-à-dire qu'on opère. Bon, c'est un exemple très simple. Deuxième branche de l'économie moderne, la théorie de l'information. Alors, je suis vraiment désolé, la théorie de l'information a plusieurs noms. Donc, si vous lisez la littérature, vous verrez théorie des incitations, théorie des contrats, théorie du signal, théorie du principe à l'agence. Ça dépend un peu de l'application. Et en gros, c'est l'utilisation stratégique d'informations privilégiées par des acteurs. Donc, il y a deux grandes branches. Il y a la morale qui est simplement liée au fait que certaines actions que vous prenez ne sont pas vérifiables par d'autres. Et ce qu'on appelle l'antisélection, c'est le fait que vous disposiez d'informations que vous pouvez manipuler. Donc, par exemple, dans une relation de métayage, celui qui gère un terrain peut avoir l'information sur sa productivité, mais aussi peut ne pas travailler très dur. Donc, il y a les deux composants, et ça s'applique aussi à la régulation, ça s'applique à la finance d'entreprise, au problème de gouvernance, qui est un problème principal agent, etc., etc. Ces deux théories ont été très utilisées, alors en économie dans absolument tous les domaines, mais aussi en sciences politiques, en sociologie, en psychologie, j'expliquerai, et puis c'est même utilisé en droit maintenant. Donc en gros, l'économie s'est construite au XXe siècle en supposant que les gens étaient rationnels. Alors évidemment, ils pouvaient avoir des contrats d'information, ils ne savaient pas tout, etc. Mais en gros, étant donné leur information et leurs objectifs, ils se comportaient de façon optimale pour eux. Alors depuis une dizaine d'années, 15 années, les économistes reviennent vers la psychologie à travers l'économie comportementale et la neuroéconomie. Je parlerai assez peu de la neuroéconomie parce que c'est encore un sujet qui est en train de se développer. L'idée étant de comprendre mieux les comportements parce que c'est vrai que les hommes économiques, les hommes politiques, etc., se comportent pas exactement comme le prédit la théorie. C'est-à-dire qu'on a des biais, on a tous des biais. Dans ces transparents, j'en cite quelques-uns, c'est-à-dire un biais assez classique, c'est la préférence trop forte pour le présent. Par exemple, le fait qu'on procrastine et qu'on remet au lendemain le travail, la prise de drogue, l'addiction à des composants chimiques, bien sûr, mais aussi à des composants psychologiques, c'est-à-dire qu'on remet à demain, j'arrêterai de fumer demain, mais évidemment, demain, j'arrêterai pas, hein, c'est évident. On fait pas assez d'exercice, on épargne trop peu. En tout cas, les Américains se plaignent toujours qu'ils veulent épargner, mais n'épargnent jamais. Et tous les comportements court-termistes du point de vue de l'individu même. Hein. Je ne parle pas des comportements court-termistes qui viennent des problèmes d'agence. Je parle des problèmes court-termistes qui viennent du point de vue de l'individu même. Alors, il y a beaucoup de travaux en économie là-dessus. Bon, c'est un vieux thème, hein. Ça date des philosophes grecs. Adam Smith en parlait beaucoup. Mais en économie, pendant un siècle, on n'en a plus parlé, en gros, hein. Pratiquement plus. Les travaux en neurosciences aussi s'intéressent à ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, on fait beaucoup d'imagerie cérébrale et on essaie de voir qu'est-ce qui se passe si on confronte des individus à des choix intertemporels. On leur dit, est-ce que vous voulez 10 euros aujourd'hui ou 15 euros dans 6 mois ? C'est un taux d'intérêt quand même assez important, hein, si on y réfléchit. Et on regarde bien qu'est-ce qui s'active. D'ailleurs, sur la récompense immédiate, c'est-à-dire les 10 euros aujourd'hui, c'est le système limbique, qui est un système assez primaire qui existe chez les autres espèces animales, alors que demain, c'est le cortex préfrontal qui est beaucoup plus développé chez les humains. Alors, ça ne veut pas dire que les animaux n'épargnent pas, bien sûr, ils épargnent, mais c'est vrai que nous, on est beaucoup plus dans le mode cognitif. Et d'ailleurs, voir demain, ça exige une certaine imagination. Une des choses qu'on a mis en évidence en neurosciences, c'est que pour pouvoir prendre des décisions qui seront bonnes pour nous demain, il faut s'imaginer demain. Donc, il faut effectivement consommer demain dès aujourd'hui. Et pour ça, il faut certaines capacités du cerveau qui se trouvent dans certaines parties du cerveau, en particulier le cortex préfrontal. C'est-à-dire que si vous faites de la gym, il faut vous imaginer comment vous serez cet été sur la plage. Ou si vous épargnez, il faut vous imaginer qu'est-ce que vous allez faire de votre épargne, etc., etc. Et ça demande une certaine réflexion qui n'est pas toujours disponible. D'ailleurs, quand on prend certaines parties du cerveau, pour des raisons qu'on les inhibe, ça disparaît. Ça, c'est un premier biais, c'est qu'on a tendance à être court-termiste, même vis-à-vis de nous-mêmes. On voudrait arrêter de fumer, on voudrait épargner plus, etc. Un autre biais, c'est qu'on est très mauvais à réviser ses croyances. C'est-à-dire que On apprend au lycée et à l'université la loi de Bayes, et normalement on est tout à fait rationnel sur la révision des croyances quand on a de la nouvelle information. Il s'avère que les gens se trompent souvent, y compris des gens extrêmement instruits et très forts, comme il y a eu des expériences à la Medical School d'Harvard. C'est quand même, quand on voit qu'ils se trompent, des probabilités passent de 90% à 3%, c'est quand même un petit peu inquiétant, sachant que ce sont les meilleurs médecins du monde quand même, donc c'est quand même un peu étonnant. Autre biais, un optimisme excessif. Autre biais qui est très ancien, évidemment, la mémoire sélective, l'automanipulation des croyances. Troisième comportement étrange, entre guillemets, les comportements prosociaux et l'altruisme, et ça j'en parlerai plus en détail. Alors ici, c'est l'altruisme, pas au sens relation répétée. C'est très clair que je vous fais une faveur parce que demain vous allez me faire une faveur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça, c'est des comportements qui sont égoïstes. C'est simplement, en apparence, ce sont des comportements altruistes, mais ça n'en est pas. C'est un jeu répété. Non, là, on va donner des exemples d'altruisme dans une minute. Le rôle des émotions. Les émotions, c'est tout à fait important. Donc, quelqu'un de rationnel, les émotions joueraient un rôle très faible. Il y aurait uniquement l'analyse. La confiance en autrui. Alors, en économie, la confiance en autrui, on en parle depuis très longtemps et on la formalise de façon simple. C'est-à-dire qu'on analyse comme une information imparfaite sur la fiabilité ou les préférences de l'autre. Et au fur et à mesure du temps, on révise ses croyances. C'est-à-dire qu'à force de connaître quelqu'un, on sait mieux si cette personne est fiable ou pas fiable. Donc, ça, c'est un modèle très, très simple. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ça dépend de phénomènes hormonaux, de phénomènes du cerveau. Par exemple, il y a un économiste qui s'appelle Ernst Fehr, qui est à Zurich, qui s'est amusé à mettre une hormone, l'oxytocine, et les gens étaient beaucoup plus coopératifs. Alors, dans le trust game, le jeu de la confiance. Le jeu de la confiance, c'est un jeu très simple. C'est un jeu dans lequel je vous donne, par exemple, entre 0 et 10 euros de ma tirelire. Je peux choisir 3, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est multiplié, vous recevez 9. Donc c'est multiplié par 3, si je choisis 5, vous recevez 15, et vous me redonnez ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé de me redonner quoi que ce soit. D'accord ? Donc le jeu de la confiance, c'est que je choisis combien vous donnez, l'expérimentateur multiplie ce chiffre par 3, l'autre personne la reçoit et peut redonner de l'argent s'il veut. Donc un comportement rationnel, ça serait pour l'autre personne de ne pas redonner du tout et de garder tout pour lui. Et moi, si je n'ai pas confiance, évidemment, je ne donnerai rien. D'accord ? Donc, en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent en espérant que l'autre aura un comportement de réciprocité. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en donnant à certaines personnes certaines hormones, on leur donne confiance aux autres automatiquement. C'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup plus dans un jeu de ce type. Donc, c'est assez inquiétant aussi, parce que dans ce cas-là, on peut imaginer les applications commerciales et etc. dont on pourrait faire de ce genre de choses. Bon, les biais d'attention. C'est tout à fait important aussi. On avait une conférence à Toulouse avec des neuroscientistes et des psychologues là-dessus il y a un mois qui était passionnante. Et je voudrais prendre un exemple parce que c'est un domaine incroyablement vaste et je ne veux quand même pas prendre tout votre après-midi. Donc je voudrais prendre un exemple et puis le développer un petit peu plus, mais je resterai encore un peu dans la superficialité. Donc l'exemple qui interpelle les économistes, qui ne va pas vous interpeller vous, mais je pense que l'économiste qui écrit des modèles et qui pense à quelqu'un de rationnel, qui interpelle, c'est les comportements prosociaux. Donc, par exemple, dans nos modèles économiques classiques, on n'a pas d'individus qui donnent à des organisations caritatives, qui investissent dans des fonds socialement responsables, qui achètent des produits du commerce équitable ou qui travaillent pour des ONG à un salaire à moitié. On n'a pas de gens qui votent. Les économistes vous diront tous que voter, c'est la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Alors, je fais un peu de provocation, mais c'est vrai que d'une certaine manière, si vous calculez la probabilité que vous changez le résultat d'un vote, même en Floride, en l'an 2000, vous en étiez encore très, très, très loin. La probabilité, ça dépend de l'élection, mais incroyablement faible. Jamais vous avez changé vous-même le résultat d'une élection. Dans ce cas-là, pourquoi vous vous déplacez, sachant que ça vous prend un peu de temps? Alors, vous avez vos hypothèses, bien sûr, parce que vous votez, donc vous savez très bien pourquoi vous votez. Mais pour vous donner, c'est clair que vous ne votez pas pour un profit matériel, parce que vous préférez tel candidat ou tel autre. Parce que vous n'allez jamais faire élire le candidat que vous voulez. Enfin, la probabilité est absolument nulle. Et encore une fois, la Floride, c'était quoi? 200, 300 votes. Et c'est un vote extrêmement proche. Donc votre vote, même en Floride, n'aurait rien changé. Donc, alors on voit aussi des gens qui risquent leur vie pour ce qui ressent être le bien public. Des gens qui se jettent dans une rivière froide pour sauver quelqu'un. Même des terroristes. Les terroristes, d'une certaine manière, fournissent ce qu'ils perçoivent être un bien public et sacrifient leur vie pour ça. À moins qu'ils aient une autre motivation extrinsèque, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc de façon générale, on fait des choses qui ne correspondent pas forcément à notre intérêt personnel. Essayons de comprendre pourquoi. Alors il y a une façon d'y réfléchir qui est, c'est simplement qu'on a un certain degré d'altruisme, c'est-à-dire qu'on internalise le bien-être des autres. Et je vais vous montrer que C'est un début, mais c'est pas une bonne solution. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas expliquer simplement en supposant que les individus internalisent le bien-être des autres. Internaliser le bien-être des autres, ça pourrait expliquer pourquoi on donne une organisation caritative ou pourquoi on va voter si on pense... Enfin, voter, non, encore une fois, voter, c'est très difficile puisque là, on ne changera jamais le résultat d'une élection. Alors, il y a un jeu très célèbre dans un certain nombre de littératures en sciences sociales qui s'appelle le jeu du dictateur. Le jeu du dictateur, c'est un jeu dans lequel un individu est devant son ordinateur et il choisit entre deux choix, A et B. Alors, ce sont des conditions d'anonymat. Hein. Donc, il est devant son ordinateur. Il va choisir quelque chose qui va affecter son profit ou son bien-être, mais qui aussi va affecter le profit ou le bien-être d'un autre individu qu'il ne connaît pas. C'est quelqu'un d'anonyme, c'est quelqu'un qui participe à l'expérience, mais il ne sait pas qui c'est. C'est complètement anonyme, la façon dont c'est organisé, c'est que même l'expérimentateur ne sait pas quel est le choix que vous avez fait. Donc, il faut un processus assez complexe pour que ça soit le cas. Peu importe, l'individu choisit entre A et B. S'il choisit l'action égoïste A, il obtient 6 euros par exemple. Et l'autre personne qu'il ne connaît pas, qui est dans la salle, aura 1. S'il choisit l'action B, ben, il sera généreux. C'est-à-dire que lui, il veut avoir un profit un peu plus faible, il n'aura que 5 euros. Mais par contre, l'autre aura 5 euros. Donc, il y a une action égoïste et une action généreuse. Il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les comportements. Donc, le comportement rationnel, entre guillemets, au sens classique, ce serait de choisir A, c'est-à-dire la question égoïste, celle qui vous rapporte le plus. Mais en pratique, il y a 3/4 des individus, en gros, hein, ça dépend des expériences, mais en gros, c'est 3/4 des individus qui choisissent l'action généreuse, l'action B. Donc là, on peut dire, bon ben, soit en choisissant l'action B, je perds 1, mais je donne 4 à l'autre. Donc si j'internalise suffisamment au moins 25% du bien-être de l'autre, je devrais choisir l'action B. Seulement, cette explication, comme je le disais, n'est pas une bonne explication. La générosité, et vous le savez, est un phénomène beaucoup plus complexe que simplement internaliser le bien-être des autres. Alors, tout d'abord, vous savez très bien que la générosité, il y a au moins 3 motivations. La première, c'est une motivation intrinsèque, c'est qu'on est vraiment généreux. La deuxième, c'est une motivation extrinsèque, c'est quand on nous pousse à la générosité. Et la troisième, c'est une volonté de paraître, c'est-à-dire de se donner une bonne image de soi vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on veut montrer aux autres qu'on est quelqu'un de généreux, de bon, mais aussi vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire qu'on veut se montrer, c'est Adam Smith qui en a longuement parlé, et bien d'autres, on veut se montrer à soi-même qu'on est quelqu'un de généreux, qu'on est quelqu'un de bien. Alors, dans ces expériences, c'est jamais le signalement social, c'est toujours le signalement, l'auto-signalement. C'est-à-dire que, comme c'est anonyme, la seule personne à qui on est en train de signaler, c'est à soi-même. D'accord ? Donc, c'est l'intérêt de ces situations de laboratoire, c'est qu'on peut isoler, par exemple, le signal qu'on envoie à soi-même. Ceci dit, le signalement social est important aussi. Vous regardez, par exemple, les dons aux musées ou aux universités. On sait tous qu'un don anonyme est un don merveilleux, le plus méritant possible, admirable. Mais seulement, en pratique, 1% des dons, ou 5%, ça dépend des endroits, sont anonymes. De même, il y a quelque chose de très amusant, c'est ce graphique que vous avez page 12, qui est la distribution des dons quand il y a des catégories. Si vous avez des catégories argent, or, platinum ou gold, enfin comme un peu les compagnies aériennes, vous voyez qu'il y a une accumulation juste à ce qui vous permet d'avoir la catégorie en question. Donc par exemple, s'il y a une catégorie qui correspond à un don de 500 à 1000 euros, vous avez beaucoup de dons qui sont autour de 500 et 510 euros, alors que normalement ça devrait être réparti de façon plus ou moins uniforme. Donc ça montre bien que la générosité, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus complexe que simplement internaliser le bien des autres. Dans le même ordre d'idée, une étude suisse très intéressante, dans les cantons suisses, sur la réforme qui a consisté dans certains cantons à introduire le vote par correspondance. Alors, dans certains cantons suisses, donc, les gens, au lieu de se déplacer, pouvaient voter par correspondance. Donc, si vous prenez un économiste qui étudie le sujet, il dirait, ben, dans ce cas-là, il va y avoir plus de participation. La courbe d'offre de vote, en quelque sorte, et je m'excuse de parler en jargon, mais la courbe d'offre de vote est croissante, on devrait avoir, puisque le coût pour les gens diminue, au moins pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui préféreront toujours se déplacer et aller voter, mais pour d'autres personnes, ça sera plus facile de voter par correspondance, et donc il devrait y avoir plus de votes, puisqu'on donne plus de choix aux gens. Et l'expérience, c'est qu'il n'y a pas plus de votes, et dans certains endroits, il y a même moins de votes quand on introduit le vote par correspondance. Alors, pourquoi ? Ben, je vous donne un indice. Les endroits où le vote a baissé, c'est dans les campagnes. C'est dans les villages, en fait. Parce que dans les villages, il y a une pression sociale assez forte pour aller voter, bien sûr. On va voter parce qu'on veut montrer qu'on est un bon citoyen. À partir du moment où on a du vote par correspondance, ça veut dire qu'on a une excuse pour ne pas aller voter. On peut toujours faire croire aux autres qu'on a voté par correspondance. Et donc, à Zurich, etc., ça n'a rien changé, mais par contre, dans les villages, le vote a diminué, alors que normalement, il aurait dû augmenter, puisqu'on diminue le coût d'aller voter. Donc, ça montre un peu la complexité des choses. Et pour enfoncer le clou, si je puis me permettre, une expérience faite il y a quelques années sur une élaboration du jeu du dictateur, le jeu du dictateur modifié. Et ce jeu du dictateur modifié dit qu'il y a deux états de la nature qui sont équiprobables, disons. Dans le premier état de la nature, les profits sont exactement les mêmes que précédemment. C'est-à-dire que A est l'action égoïste. Donc, celui qui décide a 6 s'il choisit A et 5 s'il choisit B. Par contre, l'autre personne aura 1 s'il choisit A et 5 s'il choisit B. Donc, dans le premier état de la nature, c'est le même jeu dictateur qu'on avait précédemment. Dans le deuxième état de la nature, l'action A est meilleure pour les deux. C'est-à-dire que le dictateur a 6 au lieu de 5, toujours, mais l'autre personne a 5 au lieu de 1, si on choisit A. Donc là, pour parler vulgairement, il n'y a pas photo. Dans le deuxième état de la nature, il faut choisir A parce que c'est bon pour soi-même et c'est aussi bon pour l'autre personne. Donc il n'y a pas de question de générosité et d'égoïsme, il faut choisir A. Bon, pas très intéressant, mais la personne ne connaît pas l'état de la nature. Donc vous demandez à la personne, l'expérimentateur demande à la personne, est-ce que vous voulez connaître l'état de la nature ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez savoir dans quel état de la nature vous êtes ? Normalement, quelqu'un de rationnel devrait dire oui, parce que, étant donné, si je connais l'état de la nature, je connais ses chiffres, et donc je peux choisir rationnellement ce qui est le mieux, ce que je préfère. Et la plupart des gens, en fait, ne veulent pas savoir. Et devinez, qu'est-ce qu'ils choisissent ? Ben, ils choisissent A, ils choisissent l'action égoïste. C'est-à-dire qu'ils ont une excuse potentielle, qui est d'ailleurs une très très mauvaise excuse quand vous y réfléchissez, qu'en fait, il y a un état de la nature possible dans lequel, en fait, ils ne font pas de mal à l'autre. Alors que, normalement, si on est quelqu'un de généreux, on devrait vouloir connaître l'état de la nature. Dans le premier état de la nature, on choisit l'action généreuse. Et dans le deuxième état de la nature, on décide B. Et dans le deuxième état de la nature, on choisit A. Donc ceux qui étaient généreux dans l'expérience du dictateur classique, en fait, deviennent très égoïstes, parce que maintenant, ils ont une espèce d'excuse qui ne sont pas forcément en train de nuire à l'autre. Donc ça vous montre la complexité de l'être humain, mais aussi en même temps les subtilités de notre esprit, parce que c'est quand même très très subtil comme raisonnement. Je continue un peu dans la liste de choses amusantes. Le rôle de la mémoire, qui est très très important aussi pour les comportements prosociaux. Par exemple, des psychologues ont travaillé sur la tricherie. Donc, ils créent un jeu dans lequel on peut tricher. Par exemple, c'est marqué 5, on peut déclarer 7 euros et recevoir 7 euros. Et c'est fait de telle façon qu'on ne se fera jamais prendre. C'est-à-dire que c'est clair qu'on peut tricher sans aucun coût. Donc, pareil, il y a des gens qui trichent, il y a d'autres gens qui sont plus scrupuleux et qui ne trichent pas. Mais après, ils font la même expérience et ils lisent d'abord les 10 commandements ou alors le code d'honneur de l'université, qui normalement devrait être totalement orthogonal à ce choix, et s'aperçoivent que les gens, en fait, ne trichent beaucoup moins. Donc, c'est tout à fait intéressant. Donc, les gens, on leur rappelle certaines vertus morales, et ils se mettent à tricher beaucoup moins. Donc, si vous voulez, votre modèle totalement rationnel, tel qu'il est décrit en économie, en souffre un peu. Enfin, pour vous montrer la complexité vraiment de ces comportements trop sociaux, je passe aux expériences de Monin et de ses co-auteurs sur l'ostracisme. En fait, on aime les gens généreux, mais on n'aime pas les gens trop généreux. Être un saint, ce n'est pas une bonne chose. Et on le sait, on n'aime pas les gens qui vous font indirectement des leçons de morale. Et donc, c'est du benchmarking, hein, rien d'autre. Et donc là, ils ont des expériences empiriques, et ils ont vraiment de l'évidence qui montre ça, que des gens qui se comportent de façon trop généreuse sont ostracisés par les autres. Donc c'est quand même tout à fait intéressant, notre concept de générosité est tout à fait intéressant. Alors vous allez me demander, mais pourquoi l'économiste s'intéresse-t-il à ce genre de choses ? C'est important, juste pour vous situer un peu les choses déjà de façon générale, c'est-à-dire que l'économie s'est réouverte aux sciences sociales. Au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il n'y avait pas de distinction entre sciences sociales. L'économiste était psychologue, était sociologue, etc. Depuis le XXe siècle, l'économiste n'est plus psychologue, plus sociologue, etc. Et c'était une bonne chose, je dirais. Rien à voir avec les autres sciences sociales qui me paraissent tout à fait fondamentales. C'est-à-dire que l'économiste a développé sa propre personnalité et ses propres outils. Mais en faisant ça, il a perdu au change, quand même en délaissant les autres sciences sociales. Donc il y a un retour très fort vers une intégration des sciences sociales en économie, un peu partout. Alors, en tant qu'économiste, on s'intéresse pas seulement à des problèmes comme la théorie des votes, mais on s'intéresse aussi au pouvoir des incitations, et on veut éviter évidemment les phénomènes d'éviction. Les phénomènes d'éviction, c'est ce qui se passe quand vous accroissez les incitations extrinsèques et que ça va à contre-courant, en fait c'est contre-productif, et vous obtenez une participation moindre ou un effort moindre. C'est important pour les politiques publiques. Par exemple, si vous posez une question, est-ce qu'il vaut mieux subventionner une voiture hybride ou une chaudière plus efficace qui économise indirectement du CO2, par exemple, c'est une question tout à fait. Si vous voulez comprendre l'investissement socialement responsable, c'est important. Si vous voulez voir comment vous pouvez changer les normes sociales, le comportement vis-à-vis de l'évasion fiscale, etc., etc., c'est tout à fait crucial. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de ces choses-là. En vous parlant un tout petit peu, et je m'en excuse, de travaux que j'ai faits avec Roland Benabou et puis de travaux reliés qui ont été faits par des psychologues. Roland Benabou est un professeur à Princeton, qui est à Toulouse cette année, mais qui est professeur à Princeton, sur les comportements altruistes et prosociaux. Donc je reprends un petit peu les motivations directes pour adopter un comportement prosocial. D'abord, il y a la vraie générosité, la vraie motivation, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Il y a la motivation extrinsèque, alors ce sont souvent en économie les incitants financiers, mais ça peut être aussi les sanctions pénales, ça peut être des perspectives de carrière, ça peut être beaucoup de choses, c'est tout ce que vous pouvez faire de façon intéressée. Et enfin, troisième motivant, c'est incitant, c'est l'image qu'ont les autres de nous-mêmes et aussi l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc, nous avons tout d'abord développé une théorie. Alors, à ce sujet, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ne connaissent pas l'économie, l'économie, c'est un peu comme on fait un travail un peu d'ingénieur, c'est-à-dire qu'on fait des modèles, on essaie de simplifier la réalité, essayer de développer des modèles qui représentent à peu près la réalité de façon simplifiée, et on essaie d'en tirer des prédictions. Une fois qu'on a ces prédictions, ben soit on fait des recommandations directement, soit mieux, on essaie de les tester. Donc on peut les tester soit sur des données empiriques, quand on a des données empiriques, ce qui n'est pas toujours le cas, soit on peut les tester en laboratoire ou sur des expériences dans une entreprise et autres. Personnellement, ainsi que Roland Benabou, nous sommes des théoriciens, donc nous faisons plutôt la première partie, même si de temps en temps nous testons aussi, mais il y a une spécialisation comme un peu dans toute science, donc nous sommes plutôt spécialisés dans la génération d'idées et de théories. Et donc on avait écrit un modèle dans lequel les individus sont hétérogènes. Ils sont hétérogènes dans plusieurs dimensions, enfin dans le cas le plus simple dans deux dimensions. D'une part leur altruisme, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont plus ou moins prosociaux, mais d'autre part aussi leur avarice ou leur appât du gain, ou ce que les économistes appellent l'utilité marginale de l'argent. C'est-à-dire quel intérêt on a pour recevoir de l'argent, en quelque sorte. Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe en termes d'offres agrégées, puisque les individus sont hétérogènes, donc tout ce qu'on peut faire, c'est la moyenne ou l'offre agrégée, en fonction de l'incitation qu'on donne. C'est-à-dire qu'on peut donner une incitation à adopter un comportement prosocial. Par exemple, un vieux débat depuis les années 70, c'est est-ce qu'on devrait payer les gens pour donner leur sang ? Il y a des pays où on paie pour donner le sang, on peut ne pas payer. Alors, il y avait un livre célèbre de Titmouse qui disait qu'il ne faut pas payer les gens pour donner leur sang parce qu'ils perdent leur motivation intrinsèque. Ils sont beaucoup moins généreux. Et il y a eu des expériences d'ailleurs récentes en Suède. Je n'avais pas l'intention d'en parler, mais je peux en parler si vous êtes intéressé. Donc l'idée, c'est que normalement, si on paie les gens pour donner le sang, ils devraient donner plus de sang. Donc ça devrait être une bonne chose. D'un autre côté, s'ils perdent leur motivation intrinsèque à donner du sang, s'ils deviennent moins généreux, ce n'est pas une bonne chose. Donc on a regardé d'un point de vue théorique qu'est-ce qui se passe en fonction de la volonté d'avoir une bonne image de soi-même ou que les autres aient une bonne image de soi-même. Et quand il n'y a aucune volonté de ce type, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'homo economicus classique, c'est-à-dire qu'on augmente la récompense, les gens vont donner plus. Mais quand les gens commencent à s'intéresser à leur image, c'est-à-dire qu'ils sont soucieux de leur image, il se passe des phénomènes curieux. C'est-à-dire qu'à un certain moment, sur un intervalle, en fait, vous payez plus et vous avez moins de sang, par exemple. Vous avez moins de dons. Et alors, ce qui se passe, c'est quelque chose de très, très simple, en fait, c'est que les gens, dans ce cas-là, qui, par exemple, donnaient leur sang parce qu'ils pensaient d'eux-mêmes qu'ils sont des bons citoyens ou ils voulaient que les autres pensent qu'ils sont des bons citoyens, en fait, perdent cette motivation parce qu'ils pourraient le faire pour une seconde raison, ils pourraient le faire pour l'argent. Donc, si les autres ou vous-même pensez que vous avez fait cette action généreuse parce qu'en fait, vous voulez avoir vraiment de l'argent par l'appât du gain, dans ce cas-là, vous perdez l'effet de signal qui est de se comporter de façon généreuse. Et en fait, vous pouvez avoir des effets d'éviction où l'incitation extrinsèque peut en fait évincer l'incitation intrinsèque. Alors ça, c'est de la théorie pure. Dan Ariely, qui est un psychologue très connu, qui était au MIT à l'époque, qui maintenant est Duke, qui a écrit des livres assez connus, l'a testé avec ses co-auteurs et a testé notre modèle. Et il a testé deux prédictions particulières de notre modèle. La première, c'est qui est une prédiction très simple, c'est qu'on va avoir plus de contributions quand on est observé par les pairs. C'est-à-dire le mu, c'est effectivement la visibilité de son action ici. C'est-à-dire qu'on aura plus de contributions quand on est observé par les pairs. Ben, ça, on le sait très bien. Hein. Les gens se comportent mieux quand ils sont observés par d'autres, dont ils sont proches. Ça va de soi. Donc, c'est une observation. Bon, c'est important de savoir qu'effectivement, en laboratoire, ça marche aussi. Mais de façon plus intéressante, c'est que l'effet des incitations financières est moindre quand on est observé par les pairs. Et c'est justement pour la raison... C'est-à-dire que quand on le fait en privé, les incitations financières marchent bien. Mais par contre, quand on le fait devant d'autres personnes, ces autres personnes se demandent si on l'a fait pour l'argent ou parce qu'on est généreux. Et les incitations financières ont très peu d'effet dans le cas particulier. Donc, c'est assez amusant de voir que la théorie est corroborée par les expériences. Et donc, alors, vous allez me dire de nouveau, mais ça sert à quoi tout ça? Pourquoi on fait ça? Bon, en tant qu'intellectuel, on s'intéresse à la façon dont le cerveau se comporte, comment en tant qu'être humain, on raisonne, bien sûr. Mais on voudrait aussi appliquer ça si possible. Donc, par exemple, si vous avez le choix entre subventionner une chaudière propre ou une voiture hybride, une Prius, la réponse est qu'il faut subventionner une chaudière propre parce que c'est quelque chose qui n'est pas observé par les autres. Et donc, les incitations monétaires auront beaucoup plus d'effet si vous subventionnez une activité privée, à moins que vous fassiez visiter votre cave par vos amis. Il y aura beaucoup plus d'impact d'une incitation financière dans le cas d'une chaudière propre que dans une voiture hybride. Ceci dit, ces théories qu'on a développées sont des théories qui, in fine, sont des théories de bon sens. Par exemple, on peut, au lieu de jouer sur les incitations financières, on peut jouer sur la publicité qu'on donne. Et toutes les organisations jouent sur cette publicité. Même les commerçants mettent l'employé du mois, par exemple. Donc on essaie de dire qui a été un bon citoyen, de manière diverse. Alors ça augmente les incitations, évidemment, à se comporter bien. Mais évidemment, il faut que cette publicité, comme vous l'imaginez, vienne de tierces parties. Si je vais vous voir et que je vous dis « j'ai eu tel ou tel comportement généreux », qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Est-ce que vous avez pensé que je suis quelqu'un de généreux? Non, vous allez penser « c'est quelqu'un qui s'occupe de lui-même, qui est très intéressé par sa propre image, et il a acheté du prestige social en se comportant de façon généreuse ». C'est ça que vous avez pensé. Donc, la théorie vous dit, et l'expérience, c'est aussi l'expérience pratique, c'est vous préférez que quelqu'un dise du bien de vous plutôt que vous-même vous disiez du bien de vous-même. D'accord? Ça va de soi. Mais ça vous dit que nous sommes tous des théoriciens des jeux très accomplis, parce que c'est quand même des raisonnements extrêmement compliqués, mais on a résolu quand même l'équilibre de ce jeu, c'est-à-dire qu'on a compris toutes ces inférences qui passent quand on se comporte. Donc les gens comprennent très bien, donc la théorie des jeux, c'est pas seulement quelque chose de complètement abstrait, c'est quelque chose de très pratique, qu'on pratique des dizaines, des centaines de fois par jour, sans s'en rendre compte. Alors les autres effets d'éviction, alors, encore une fois, un effet d'éviction, c'est une situation dans laquelle on augmente les incitations et les gens finalement donnent moins ou font moins d'efforts. Il y a cette confusion des genres avec la possibilité qu'on veuille être généreux pour des raisons financières. Il y a une autre raison qu'on avait donnée il y a plus longtemps, qui est de l'information privée de la part de ce qu'on appelle un principal, c'est-à-dire celui qui construit les incitations. Ça peut être un parent, ça peut être un enseignant, ça peut être un patron, ça peut être etc. Et il y a des cas où, effectivement, l'information privée peut donner naissance à des effets d'éviction. Enfin, tout simplement, si vous payez votre enfant pour avoir une bonne note, ça peut avoir des effets positifs, mais parfois, ça peut avoir des effets perverses. Parce que l'enfant peut penser que vous ne lui faites pas confiance, ou alors que vous pensez qu'il n'est pas capable autrement s'il ne travaille pas très dur, il peut perdre la confiance en lui-même. Des expériences d'Armin Falk. Armin Falk, c'est un Allemand qui a le prix Rio Johnson. Le prix Rio Johnson, c'est le prix du meilleur économiste européen qui est décerné tous les deux ans. Et là, il a été donné à un économiste qui a fait sa carrière en économie comportementale et en neurosciences. C'est très important. Donc, vous voyez l'évolution. C'est-à-dire que le prix du meilleur économiste européen, il a été donné cette année à quelqu'un qui fait des neurosciences. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là, ce n'était pas un travail de neurosciences. Là, dans ce travail particulier, il avait confirmé que trop contrôler un subordonné, par exemple, peut envoyer un signal de méfiance et détruire sa motivation encore de nouveau en laboratoire ou alors dans une entreprise. Enfin, une autre raison pour laquelle il peut y avoir un effet d'éviction, c'est une expérience qui est récente de Fuster et Meyer. Vous savez qu'une mise en œuvre sociale des bons comportements, c'est évidemment les sanctions sociales. Alors, les sociologues ont insisté là-dessus depuis très très longtemps. Nous, les économistes, on se réveille un peu tard, mais c'est vaut mieux. Réveillé trop tard que jamais. Et ces punitions sociales sont importantes. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les punitions sociales diminuaient quand la personne recevait de l'argent pour se comporter bien. Donc l'idée, c'est que se comporter bien coûte moins cher, ou plutôt se comporter mal coûte plus cher, et donc il y a moins à punir ceux qui ne se comportent mal. Enfin, je voudrais conclure par quelques sujets que je vais aborder très rapidement, mais simplement pour nos confrères qui sont juristes et qui vont sans doute trouver ça extrêmement simpliste, mais enfin, au moins c'est pour vous dire que les économistes aussi s'intéressent depuis très longtemps au droit à l'économie, c'est-à-dire de voir effectivement le système juridique comme un système, je vais vous choquer, comme un système de prix. C'est vrai que c'est un système d'incitant, d'une certaine manière, un système juridique et un système d'incitant. Et depuis 30 ou 40 ans, les économistes voient le droit comme finalement un vecteur d'incitation. Les psychologues et les sociologues ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Ils disent que c'est important d'utiliser la persuasion, d'utiliser les sanctions sociales quand on va induire les bons comportements. On ne peut pas mettre des incitations partout et les incitations de plus peuvent avoir des effets contre-productifs. Ce sont les effets d'éviction dont on parlait précédemment. Je crois que les juristes se situent un petit peu entre les deux, vous serez peut-être en désaccord avec moi, mais en tout cas certains juristes évidemment reconnaissent le rôle des incitants, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un rôle important d'incitation du droit et de la loi, mais il y a aussi à travers le droit et la loi une expression des valeurs de la société, c'est-à-dire qu'on envoie un signal, là on revient à la théorie du signal, on envoie un signal sur ces valeurs de la société. Alors, les expériences qui ont été faites, alors là maintenant c'est un mélange d'économistes, de sociologues, de juristes, etc., il y a eu des expériences qui ont été faites sur les appels au comportement citoyen, c'est-à-dire que ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est en cas de pénurie d'électricité, au lieu de monter les prix, tous les économistes diraient, s'il y a une pénurie d'électricité, il faut monter les prix pour réduire la demande et augmenter l'offre. C'est le béaba de l'économie, bien sûr, il faut le faire. Mais en plus, il faut appeler à la restreinte, donc il y a des campagnes qui se font pour appeler à la restreinte, de même quand il y a une pénurie d'eau, une pénurie de vaccins. Quand il y a une consommation abusive d'alcool, etc., il n'y a pas que simplement les sanctions ou les incitations financières qui peuvent être utilisées. Cialdini, qui est un sociologue, a beaucoup mis en emphase deux types de normes. La norme descriptive, c'est-à-dire vous allez voir les gens et vous dites comment leur père ou la communauté auquel ils appartiennent se comporte. Et l'autre, c'est la norme prescriptive, c'est-à-dire la façon dont les pères ou la communauté dans laquelle on vit approuve, ce qui n'est pas la même chose. Par exemple, il y a des expériences à Princeton chez les étudiants qui boivent beaucoup, comme dans beaucoup d'autres écoles françaises d'ailleurs. Donc à Princeton, il y a cette surconsommation d'alcool. Et donc, ils ont été voir les gens, et là, ils n'ont pas fait une expérience descriptive, parce que les gens savent que les autres étudiants boivent beaucoup, mais simplement une expérience prescriptive. C'est-à-dire qu'ils ont montré aux gens qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui boivent non pas parce qu'ils ont envie de boire et qu'ils pensent que c'est cool, mais plutôt parce qu'ils pensent que c'est ce que les autres approuvent. Ils pensent que les autres trouvent ça cool. Et donc là, ils ont essayé de déminer cette norme sociale qui est « je bois parce que je pense que les autres trouvent ça cool ». Donc, il y a ces interventions qui essaient finalement de donner de l'information aux gens sur ce que les autres font, par exemple leur consommation d'électricité ou à ce que les autres pensent. Mais il y a aussi le droit et la loi comme expression des valeurs sociales directes, c'est-à-dire essayer par des choix d'essayer d'envoyer des messages ou un signal en théorie économique sur le coût social des comportements individuels, disant ce que vous faites vraiment c'est un coût très élevé, sur la moralité générale, sur les attitudes des gens vis-à-vis de ces problèmes et sur les valeurs de la société. C'est très important pour un certain nombre de sujets. Cialdini vous dira qu'en général il faut donner de l'information positive quand cette information est bonne, c'est-à-dire imaginez que vous fassiez une intervention disant il y a beaucoup de gens qui trichent dans votre pays sur leurs impôts. D'accord ? Donc vous allez, et s'il vous plaît, essayez de ne pas tricher et payez vos impôts. Alors on pourrait dire que c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, que si les autres ne payent pas mes impôts, la valeur marginale de mon impôt est très importante, et donc je devrais payer mes impôts. En pratique, si vous allez et vous dites à la société, les gens ne payent pas leurs impôts, essayez de payer vos impôts s'il vous plaît, je ne vous garantis pas le résultat. Et vous voyez tout de suite ce qui peut se passer, les gens diront ben, « moi je ne paie pas mes impôts dans ce cas-là ». Donc il faut faire très attention. Par contre, si vous dites aux gens, vos compatriotes, vos collègues, votre communauté se comporte très bien, là vous aurez des résultats très positifs, si vous pouvez apporter de l'information à ce sujet. Alors, il est clair qu'un certain nombre de nos choix sont dictés par des considérations expressives. Si vous prenez un sujet bateau comme la peine de mort, par exemple, c'est clair que les débats sur la peine de mort, ce n'est pas un débat coût-avantage. Bon, il y a des gens qui essaient de calculer effectivement la récidive, etc., ou ce genre de choses. Mais clairement, le débat principal est sur la valeur de la société. Avec d'un côté des gens qui pensent qu'effectivement, d'ailleurs au nom de l'expression du droit, de la valeur expressive du droit, il y a des gens qui vont dire qu'il faut absolument avoir la peine de mort. Aux États-Unis, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut absolument avoir la peine de mort pour montrer qu'on ne tolère pas ce genre de comportement. Et d'autres qui disent justement pour des valeurs expressives, regardez ce que ça ferait de notre société si on appliquait la peine de mort. Donc là, c'est un débat, un terrain qui échappe complètement à l'économie, et peut-être pour de bonnes raisons, et je reviendrai là-dessus. De même, Si vous pensez aux sanctions criminelles, c'est clair qu'un économiste aura tendance à dire qu'il faut des sanctions alternatives, c'est-à-dire qu'il faut des sanctions financières, il faut des travaux d'intérêt commun, il faut des choses comme ça, parce que c'est beaucoup plus efficace socialement que de mettre en prison, qui est un gâchis monstrueux et qui est très coûteux pour la société. Donc il vaudrait mieux d'autres sanctions qui soient plus humaines et surtout moins coûteuses. Et évidemment, c'est un point de vue que ne partage pas la plupart de la société. Alors, je vais peut-être passer sur l'identité, qui est un sujet qui me passionne et sur lequel je viens de publier un article, justement, encore avec Roland Benabou. Et je vais peut-être, pour économiser un peu de temps et conclure, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, parler un peu du sujet des tabous. Alors, le travail d'un économiste, c'est un travail de conseil, un travail de réflexion sur comment on peut rendre la société meilleure et plus efficace. Et donc, en particulier, identifier les défaillances de marché et proposer des politiques pour pallier ces défaillances de marché. Ça veut dire souvent aussi introduire des incitations, c'est-à-dire de faire en sorte que les incitations individuelles soient alignées avec les incitations collectives. C'est un peu tout le but de l'économie, d'une certaine manière. On veut mettre en phase les individus et la société. Et donc, pour ça, il faut pouvoir aligner les incitants individuels, les motivations individuelles, avec les motivations collectives. D'autres sciences sociales, les autres sciences sociales, en général, sont en désaccord avec ce principe. Et les religions également, d'ailleurs, souvent. C'est-à-dire qu'il y a des objections d'ordre éthique ou moral à l'existence de certains marchés ou à l'existence de certains incitants. Alors, prenons des exemples. L'adoption, les dons d'organes. La plupart des pays interdisent les paiements pour les dons d'organes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire payer pour donner un rein. Avec des conséquences d'ailleurs parfois dramatiques, c'est-à-dire qu'il y a des pénuries de donneurs de reins, il y a des dizaines de milliers de gens qui meurent tous les ans parce qu'ils n'ont pas de donneurs, et des gens qui donnent un rein en général plutôt à leur famille ou à leurs proches, mais pas à des inconnus. Donc là, les économistes, genre Gary Becker, identifient une défaillance de marché, c'est-à-dire qu'on peut dire il y a une sous-offre de reins, ça crée des problèmes de santé, et donc on devrait payer. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui objectent à cette idée qu'on paierait pour des reins. Bon, les mères porteuses, la prostitution évidemment, le marché pour le vote ou pour le service militaire, l'amitié. D'ailleurs, réfléchissez un peu, vous êtes invité chez quelqu'un. Ça ne vous viendrait jamais à l'idée de déposer 20 euros sur la table en remerciant la personne à la fin du dîner. Par contre, ça ne vous viendrait peut-être pas à l'idée de venir sans bouquet ou sans chocolat. Donc, ou sans bonne bouteille de vin. Donc, réfléchissez un petit peu aux dons et à la réciprocité ici. C'est un exemple très intéressant. On pourrait passer 5-10 minutes à décortiquer. Mais je crois pour comprendre qui on est, il faut réfléchir à ce genre d'exemple. Évidemment, personne ne voudrait payer pour l'amitié. Mais essayez de réfléchir pourquoi vous adoptez certains comportements dans la vie pratique. Alors, ce que je raconte n'est pas nouveau. Durkheim en parlait. Le domaine du sacré, c'est important. La vie, c'est la culture, la démocratie. La vie, c'est sacré. Elle n'a pas de prix, elle n'a pas de coût, c'est bien connu. Tout le monde vous dira ça. En pratique, on prend tous les jours, nous-mêmes, des dizaines de décisions sur la vie et la vie de nos enfants. Quand on achète une voiture plutôt qu'une autre, on prend une décision sur la vie de nos enfants. Quand on décide d'aller passer le week-end à droite à gauche, on prend une décision sur la vie de nos enfants et de nous-mêmes. Les hôpitaux prennent des milliers de décisions par jour sur la vie. Ils sacrifient certaines vies pour en économiser d'autres. Donc dire que la vie n'a pas de prix, c'est complètement faux, puisque les décisions de tous les jours révèlent un prix de la vie. Et les économistes, justement, essaient de pousser vers une rationalisation dans les hôpitaux. C'est idiot de dépenser 10 millions d'euros pour sauver une vie, alors qu'à côté, pour 10 000 euros, on pourra en sauver beaucoup d'autres. Mais quand on parle comme ça, on parle de façon extrêmement froide. Et c'est très difficile pour le public à accepter ce genre de choses. Donc ça, c'est une des questions aussi sur lesquelles il faut réfléchir, où les économistes sont en opposition avec la société, souvent. Je pense en général à raison, mais parfois à tort. Et je crois que je suis prêt à avouer qu'on a tort sur certains sujets. Mais je crois que ce sont le genre de sujets dont il faut parler et essayer de réfléchir pourquoi on a ces tabous qui introduisent des inefficacités parfois importantes, qui augmentent nettement le nombre de morts dans les hôpitaux, dans un certain nombre de choses. Il faut essayer de comprendre ce genre de choses. Voilà. Je vais peut-être arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long.
Vous venez d'entendre l'économiste Jean Tirole. Sur Canal Académie, vous pouvez écouter la retransmission de toutes les séances de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2011 et sur le site de cette académie, asmp.fr, vous pouvez lire le texte de la majorité des communications.